Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Seigneur, donne-nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Union de prière ce dimanche pour la Terre Sainte, place Saint-Pierre. François appelé à la fin des hostilités entre le Hamas et Israël. Une pensée du pape pour les marins, les pêcheurs et leurs proches. François demande aux communautés chrétiennes vivant en bord de mer de se montrer attentives à leurs besoins. On revient sur leurs conditions de vie dans un instant. Évangile de Matthieu, le pape a commenté ce dimanche la parabole du semeur. Et puis enfin, dans la seconde partie de ce magazine, une rediffusion. Marie-Belle Marie sera notre invitée. Elle exerce la psychanalyse à Paris et relie pour nous nos récits fondateurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Le pape lance donc un appel de tout son cœur pour que nous tous, simples fidèles mais aussi responsables politiques, continuions à prier avec insistance pour la paix en Terre Sainte. Sur place depuis 5 jours, le ciel est déchiré. Explosions, sirènes, pluie de roquettes. Le Hamas à Gaza a tiré des centaines d'obus de mortiers sur Israël. L'armée israélienne a elle fait sa première incursion ce dimanche au sol à Gaza après près de 1300 frappes aériennes. En 120 heures. Au regard de ces événements tragiques, on parle de 170 morts côté palestinien. François lance donc un appel à la paix, évoquant notamment la prière pour la Terre Sainte qui avait été convoquée début juin au Vatican en présence du patriarche de Constantinople mais aussi des présidents israéliens et palestiniens. Le pape a affirmé qu'elle n'avait pas eu lieu en vain.
Qualcuno potrebbe pensare che tale incontro sia avvenuto in vano. Invece no.
Certains pourraient penser que cette rencontre a eu lieu en vain. Non, au contraire, la prière nous aide à ne pas nous laisser vaincre par le mal, à ne pas nous résigner sur le fait que la violence et la haine prennent le dessus sur le dialogue et la réconciliation. J'exhorte les parties intéressées et tous ceux qui ont des responsabilités politiques au niveau local et international à n'épargner aucun effort pour faire cesser toute hostilité et parvenir à la paix désirée pour le bien de tous. Je vous invite tous à vous unir dans la prière.
In silenzio tutti, preghiamo. Ora, Signore, aiutaci Tu, donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace.
Maintenant, Toi, Seigneur, aide-nous, donne-nous la paix, enseigne-nous la paix, guide-nous vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire « jamais plus la guerre ». Avec la guerre, tout est détruit. Donne-nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Rends-nous disponibles à l'écoute du cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon.
Les nostre paure in fiducia. Et les nostre tensioni in perdono.
Voilà, c'était le pape François à l'issue de l'Angélus. Mais qu'a-t-il dit dans sa catéchèse? Eh bien, il est revenu sur l'évangile de Matthieu, le commentant, un évangile consacré ce dimanche à la parabole du semeur. Une parabole qui parle aujourd'hui à chacun comme à ceux qui écoutaient Jésus il y a 2000 ans. Dans sa catéchèse, François expliquait cette parabole, le vrai personnage et la graine. Celle qui tombe le long de la route représente ceux qui écoutent le règne de Dieu mais ne l'accueillent pas. Celle qui est tombée dans les pierres fait référence aux personnes qui écoutent la parole de Dieu et l'accueillent tout de suite, mais de façon superficielle. Les ronces évoquent, elles, ceux qui écoutent la parole, mais à cause des préoccupations mondaines, des séductions de la richesse, cette parole se retrouve étouffée. Le seul terrain où la graine germe et donne des fruits, c'est donc celui des gens qui écoutent la parole, l'accueillent, en prennent soin et la comprennent. Le pape s'est alors adressé aux fidèles. Et nous, quel type de graine sort de notre cœur et de notre bouche? Nos paroles, a expliqué le pape, peuvent faire tant de bien et tant de mal. Elles peuvent guérir, elles peuvent blesser, elles peuvent encourager, elles peuvent déprimer. Souvenez-vous que ce qui compte n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de la bouche et du cœur. J'exhorte les communautés chrétiennes, en particulier celles qui vivent sur le littoral, à se montrer attentives, sensibles au sort des marins, des pêcheurs, mais aussi à leurs familles. À l'issue de sa catéchèse, le pape a encouragé les chapelains et volontaires de l'apostolat de la mer à poursuivre leurs efforts, leur pastoral. Il a confié enfin ses marins, ses pêcheurs, tous ceux qui sont en difficulté loin de chez eux, à la protection de la Vierge. Car comme d'habitude, le deuxième week-end de juillet, nous célébrons le dimanche de la mer, cérémonie œcuménique pour attirer l'attention sur les 1 200 000 marins du monde entier dont nous dépendons, a rappelé dans un message le cardinal Velio. Nous devrions leur être redevables, estime le président du Conseil pontifical pour les migrants, car ce sont eux qui transportent tout ce dont nous avons besoin pour l'industrie ou l'approvisionnement alimentaire. Les conditions de vie des marins sont très difficiles. L'Église s'engage pour les aider, notamment à travers l'apostolat de la mer. Christelle Pierre.
Leur profession est considérée comme une des plus dangereuses au monde. En 2012, 1000 marins sont décédés en mer. Le père Célestin Ikomba est le coordinateur régional de l'apostolat de la mer pour l'Afrique occidentale atlantique. Il côtoie les difficultés des marins au quotidien.
Il y a la solitude et l'isolement qui sont vraiment très présents. Nous avons les conditions de travail en mer, les états des bateaux dans lesquels ils travaillent, les incompréhensions aussi avec les sociétés qui les engagent. Il y a aussi le risque de la piraterie qui n'est jamais totalement vaincu. Nous n'oublions pas parmi ces difficultés la criminalisation et l'abandon des marins sans salaire, sans nourriture ni protection dans les ports étrangers.
250 aumôniers de l'apostolat de la mer soutiennent les marins dans les ports du monde entier. Ils leur procurent de la nourriture, un endroit accueillant. Ils les aident à contacter leur famille ou à régler les conflits avec leurs employeurs. Les prêtres apportent surtout une aide spirituelle, explique le père Emmanuel Akaamon. Il est l'aumônier adjoint de l'apostolat de la mer à Abidjan.
Quand ils arrivent dans un port, quand ils ont un problème, la première référence, c'est où se trouve le prêtre chargé des marins. Et alors nous pouvons comprendre qu'effectivement, ils ont une approche assez bien claire de Dieu, des bienfaits que le Seigneur leur apporte. Et j'ai un exemple type, il y avait dans un bateau un marin qui est décédé. Les autres ont voulu bien que nous bénissions le bateau parce qu'ils pensent que l'action du prêtre qui va bénir le bateau peut leur apporter encore beaucoup plus de réconfort pour reprendre la marche dans la mer.
Pour le dimanche de la mer, le cardinal Antonio Maria Velio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, a appelé chaque chrétien à regarder autour de lui et à se rendre compte de tous les objets de notre vie quotidienne qui sont parvenus jusqu'à nous grâce au travail dur et fatigant des marins.
Et enfin, le pape a salué ce dimanche avec grande affection les filles, les fils spirituels de Saint Camille de Lellis, mort il y a 400 ans. À l'occasion de cette année jubilaire, le pape invite la famille camillienne à être des signes de Jésus qui, comme le bon samaritain, s'incline sur les blessures du corps et de l'esprit de l'humanité souffrante. Au contact des malades, le pape espère qu'ils grandiront dans le charisme de la charité. Il devait se rendre à l'hôpital romain du Gemelli le 27 juin dernier, mais au dernier moment, François avait dû annuler sa visite en raison d'un fort mal de tête et de nausées qui s'étaient emparées de lui quelques minutes avant son départ. Ce dimanche, dans un message vidéo, le pape a présenté ses excuses aux malades et au personnel de cet établissement. « Comme vous le savez, nous ne sommes pas les maîtres de notre vie et nous ne pouvons pas en disposer à notre convenance. Nous devons accepter la fragilité, cultiver avec moi la confiance que notre force ne se trouve qu'en Dieu », a-t-il conseillé dans ce message vidéo. Pour François, les personnes malades sont les témoins du bien précieux de la vie et de l'Évangile, de l'amour miséricordieux du Père et non de l'argent et du pouvoir. Ce message affectueux a rempli de joie et d'émotion toute la famille de l'université catholique dont dépend l'hôpital du Gemelli, selon un communiqué publié par l'établissement ce dimanche. Dans la seconde partie de cette émission, Marie Balmary, qui exerce la psychanalyse à Paris, est l'invitée de ce dimanche, interrogée par sœur Catherine Aubin. Après de premières recherches sur les fondations de la psychanalyse, Marie Balmary entreprit une relecture des récits fondateurs pour nos cultures de la parole, c'est-à-dire essentiellement la Bible dans ses langues originales, hébreu et grec. Plusieurs ouvrages rendent compte de ces nouvelles interprétations. Elle a publié entre autres « Le moine et la psychanalyste » chez Albin Michel, « Abel ou la traversée de l'Éden, la divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme, ou encore le sacrifice interdit, Freud et la Bible aux éditions Grasset, il s'agit d'une rediffusion.
Marie Balmary, vous êtes connue par vos nombreux livres, des livres sur des textes fondateurs de la Bible. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que vous avez écrit une thèse et cette thèse n'a pas été accueillie. Et c'est une thèse dont le sujet est la prise de conscience. Mmh. Est-ce que l'on peut dire que finalement ce sujet vous a suivi jusqu'à aujourd'hui ?
Tout à fait. Peut-être que si on l'avait accepté, je l'aurais abandonné, ce sujet. Mais en tout cas, je crois que c'est le fil rouge de ma recherche. C'est le devenir conscient, s'éveiller à la conscience. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon métier. Mais c'est là-dessus qu'est fondée la psychanalyse. Donc, en soi, ça n'est pas étonnant. On disait, quand j'étais jeune psychologue, que l'efficacité de la psychanalyse était mystérieuse. La raison de son efficacité, c'était la prise de conscience. Donc voilà, je voulais comprendre ce qui était efficace dans la psychanalyse, qui faisait qu'on pouvait aller vraiment tellement mieux.
La prise de conscience, c'est un éveil ?
Dans mon esprit, oui. Il y a le mot prise, mais c'est un éveil. Un jour, à un moment, on réalise, comme on dit, j'ai réalisé que cette chose que je vivais comme ci, comme ci, comme ça, était en fait une mémoire douloureuse dans ma vie ou quelque chose comme ça. Je crois que nous savons tous ce que c'est que de prendre conscience. On n'a pas toujours besoin des psychanalystes, heureusement pour ça. Et c'est un grand passage à chaque fois. Et l'éveil du sujet, l'éveil de la personne, ça change tellement la vie. Que vraiment ça vaut la peine, je trouve. Enfin, pour moi, j'ai trouvé passionnant de me lancer dans cette recherche et dans ce métier.
Alors, vous avez étudié très profondément, et vous le continuez, des textes fondateurs dans la Bible. Quel est le rapport ? Est-ce que vous avez un rapport entre cette étude et les prises de conscience ? Vous avez trouvé dans la Bible des gens qui ont pris conscience de façon très, très intense ?
Oui, je pourrais dire cela. Je crois que le premier texte sur lequel je suis vraiment tombée, si on peut dire, parce qu'il me paraissait éventuellement très mortifère, c'était le sacrifice d'Abraham. Et il y a beaucoup de façons de le lire, mais ça ressemblait beaucoup pour moi à quelqu'un qui prend conscience de à quoi il croyait avant. Il croyait que Dieu allait lui demander son fils. Et au bout de 3 jours, alors... C'est raconté comme la voix divine lui parle, mais d'où est-ce qu'elle vient cette voix divine ? Quand les gens se mettent à croire à autre chose, à une autre... Mais je suis frappée de ça, qu'il met 3 jours à changer de Dieu et à entendre ce que toute conscience de père pourrait dire, ne fait aucun mal à l'enfant. Or, pendant 3 jours, il n'a pas entendu cette parole-là. Il a entendu... une voix qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire, ça peut être tous les dieux d'un certain sens, c'est un pluriel, qui lui demandait, croyait-il, d'immoler son fils. Et puis, au bout de 3 jours, il entend autre chose. Il entend l'ange d'Adonai qui lui dit « ne fais aucun mal à l'enfant », qu'il arrête. Et ça, ce mouvement-là profond, qui fait quelqu'un cesse d'obéir à un ordre mortifère et prend conscience de ce qu'il ressent et de ce qu'il croit, et de ce qui est favorable à la vie, ça, c'est un éveil extraordinaire. Je pense que c'est une des histoires les plus importantes dans l'histoire du monde.
Mais finalement, la parole qui est dans la Bible, la parole que Dieu nous donne dans la Bible, est-ce que ce n'est pas une parole justement où il nous engendre, où il nous fait naître à nous-mêmes ? Puisque vous le dites vous-même, je crois... Genèse 12, quand le Seigneur dit à Abraham « pars », en fait, « pars vers toi-même ».
Oui, et c'est là qu'on voit la différence entre une idole et ce Dieu mystérieux de la Bible. L'idole dirait plutôt « viens vers moi ». Et quelle est cette voix qui dit « va vers toi-même, va pour toi-même » ? C'est le contraire, évidemment, c'est un mouvement tellement autre. Et d'ailleurs, cette parole, elle va lui être redite au moment où il entend qu'on lui demande son fils. Il y a des germes à chaque fois. L'homme n'est pas pris dans l'idolâtrie dans la Bible, c'est ça qui est étonnant. Il commence par être idolâtre. C'est pas un texte où tout est beau et tout est rose, c'est un texte de métamorphose.
Vous employez le mot métamorphose, transformation. Oui. Il y a un lien entre la prise de conscience, l'éveil, la transformation et la métamorphose.
Oui, oui, tout ça, ce sont quatre mots pour dire sans doute la même chose. Les mots sont souvent trop petits et ceux-là ne font pas exception à la règle. Mais c'est là qu'on voit que ce n'est pas, la prise de conscience, ce n'est pas intellectuel. Parce que l'intellectuel ne fait pas de métamorphose. C'est un mouvement profond d'un être, cœur et esprit à la fois, qui peut engendrer une métamorphose. Alors, quelle est cette parole qui vient et que l'homme entend à son heure, parce que ça ne peut pas se décider comme ça, par décret ou se scolariser comme on apprend 2 et 2 font 4. À son heure de croissance, à son heure de relation, il va entendre quelque chose d'autre que ce qui l'a servi, que ce qui l'empêche d'être lui-même.
Dans tout votre chemin, Marie Balmary, quels ont été les points, justement, qui pour vous ont été comme des tremplins de métamorphose? Est-ce qu'il y a eu des passages que vous pouvez nous partager?
D'abord, il y a eu ma propre analyse, j'en dirai pas plus, mais évidemment, ça a été le premier grand passage dans cette voie-là. Il y a aussi, si nous revenons à la Bible, il y a eu des rencontres. Alors, il y a eu celle du texte d'Abraham lu en hébreu, où j'ai vu que Dieu ne lui demande pas de sacrifier son fils. C'est un mot hébreu qui peut vouloir dire « élevé ». Alors, ces mots-là sont à double sens et permettent de passer d'un état à l'autre, ce qui est quand même remarquable.
Il me semble que la psychanalyse, elle nous amène à découvrir qui on est, plus profondément. Mais parfois, il y a une étape qui permettrait encore une guérison peut-être plus profonde, qui est celle de l'amitié, celle d'être accueilli, d'être aimé comme on est.
Et je crois que rien ne se passerait en psychanalyse, comme me disait une collègue quand j'étais toute jeune analyste et encore en analyse, elle me disaient « si tu ne te sens pas reconnu et aimé par ton analyste, change-en ». Et ça m'avait bien réveillée, je m'étais dit « ah bon ». Mais Freud le dit quelque part, que c'est l'amour qui guérit, il a pris ça chez Platon, ça c'est tout à fait important. Mais je crois que le mot « conscience » lui-même, m'a enchantée quand j'ai trouvé l'étymologie « cum sire », savoir avec l'autre. L'inconscient, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce qu'on sait sans avoir pu le savoir avec quelqu'un d'autre. Parce que l'autre n'était pas au rendez-vous, parce que l'autre ne voulait rien en entendre. Il y a un statut très bizarre des choses que nous savons tout seuls. La conscience s'éveille quand il y a une relation de conscience. Et je trouve ça très merveilleux, moi, cette étymologie. Savoir avec l'autre, puis savoir avec soi-même. Ce sont les deux sens en latin, en grec, enfin, dans beaucoup de langues.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, une chose que je souhaite, c'est que, croyant ou pas croyant, nous ayons accès à des textes comme ça. Parce qu'il me semble qu'ils permettent, évidemment si on a un accès assez juste, ils permettent de mettre le langage en place, de mettre la parole en place, de mettre les différences en place, de sortir de la confusion. Ça permet de sentir, par exemple, qu'être serviteur et être fils, c'est pas pareil. Et de pouvoir le penser. Ça autorise à penser des choses comme aussi importantes que ça. Par exemple, il y a plusieurs paraboles qui parlent de ça, de ce passage de l'un à l'autre, ou de cette incompréhension momentanée, ou de ce blocage dans le genre le fils aîné de l'enfant prodigue, ou le troisième serviteur de la parabole des talents. Et ça, ça nous parle. On comprend qu'on peut être bloqué dans un statut de créature qui a reçu un don. On est dans la culpabilité, on est dans la honte, on est dans plein de choses qui se soignent dans les cabinets d'analystes. Alors c'est pour ça que ça nous paraît très important.
Est-ce qu'on peut dire finalement, je peux le poser à une psychanalyste, l'évangile de Jean serait l'évangile de la prise de conscience?
Ah oui, ça je signe à tous les coups.
Merci Marie Balmary.
Marie Belle-Marie était ce dimanche l'invitée de Sœur Catherine Aubin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine.